Bon, eh bien, je suis très heureux, à titre personnel, à titre collectif, d'accueillir parmi nous Henri Mitran. À titre personnel, parce que Henri Mitran a énormément de casquettes et il a entre autres celle d'éditeur. Et bon, j'ai eu l'honneur d'être édité à plusieurs reprises dans les collections qu'il dirigeait chez Nathan. Donc, déjà, à ce titre, c'est pour moi un honneur et un plaisir. Ensuite, Henri Mitran est professeur. Il a des professeurs à la Sorbonne Nouvelle et les professeurs honoraires à Columbia Université. Et troisième domaine d'activité, Henri Mitran est un grand spécialiste de Zola. Il a préfacé et annoté un certain nombre de romans de Zola, en particulier dans la collection Folio SF. Et là, il vient de sortir plus récemment une biographie en trois volumes considérables, donc chez Fayard, biographie de Zola. Et aujourd'hui, Henri Mitran va donc nous parler, dans le cadre de la deuxième section de ce séminaire de cette année, Fiction et narration, univers fictionnel et logique du récit, il va nous parler de espace et socialité romanesque.
Merci Francis. Je voudrais tout d'abord vous présenter mes excuses pour ce changement d'horaire. De manière imprévue, une obligation à laquelle je ne pouvais pas échapper est venue perturber les dispositions qui avaient été prises. Et voilà, nous nous voyons à 11h au lieu de nous voir à, qu'est-ce qui
À
était
16
prévu,
heures.
à 16h. Donc je vous en demande pardon. Alors, espace et socialité romanesque, je voudrais faire trois observations restrictives, préliminaires. La première, c'est qu'évidemment, je ne peux pas faire attendre une conceptualisation théorique très serrée et très profonde. Je m'insère tout simplement dans une sorte d'analyse littéraire qui, évidemment, privilégie l'étude très concrète des œuvres. Mais enfin, il me semble que ce que j'aurais à dire peut s'insérer aussi très modestement dans la logique de la dernière séance, puisque à partir d'une excursion tout à fait pédestre, hein, comme vous allez le voir, à travers les paysages sociaux de la littérature romanesque, étudiée à la fois pour leur organisation, pour le dispositif que propose le romancier, et aussi pour le vécu des personnages, à partir de cette insertion, on pourrait réfléchir à justement, la notion d'immersion qui était discutée il y a 15 jours, il s'agit d'une certaine manière de s'immerger dans des représentations de lieux et d'espaces. Des lieux et des espaces qui, d'une part, sont reconnaissables, sont dénommés, décrits explicitement ou implicitement. Mais d'autre part, sont transformés pour les besoins de la narration et de la fiction. Donc, il s'agirait, dans ce type d'investigation, dans ce type d'étude, il s'agirait de percevoir une mimésis, n'ayons pas peur de le dire, hein, mimésis des lieux et des espaces, ce qui mobilise une compétence de connaissance, une compétence de construction et d'interprétation de l'espace occupé par des humains. Une mimésis qui est elle-même, bien entendu, construite à partir d'une analyse cognitive, justement, pour employer un mot qui nous intéresse et qui nous préoccupe beaucoup ces temps-ci. Hein. Par une analyse cognitive, de toute façon déjà sémiotisée. Le romancier, de toute façon le citoyen de la rue, perçoit et pense l'espace à partir de données qui sont toujours déjà sémiotiques, ne serait-ce que l'opposition du haut et du bas, du loin et du près, etc. Ça a été très bien étudié autrefois par Remas. Donc une analyse cognitive déjà sémiotisée, ce qui justifie peut-être un apparentement, une réunion, une convergence des travaux de type de ceux qui étaient discutés la dernière fois et des travaux plus, encore une fois, plus pédestres qui sont ceux des philologues, des analystes du texte, de tous les gens qui essaient de repérer l'organisation thématique des œuvres narratives puisqu'il s'agit de soi. Donc une mimésis d'abord et bien entendu une sémiosis narrative qui fonctionne je crois à deux niveaux, celui des constructions de la représentation de l'espace dans le roman et d'une construction propre au romancier. Vous ouvrez un roman au hasard, vous apercevez bien que tous les traits possibles virtuels d'une représentation de l'espace ne sont pas tous présents. C'est-à-dire que le romancier, en fonction de sa sensibilité, de son expérience, sélectionne un certain nombre de traits concernant la cartographie, le dispositif des lieux, la topographie, la mention et la représentation des phénomènes de dimension, de lumière, de couleur, d'occupation, de que sais-je, enfin tout ce qui est l'ensemble des traits virtuels potentiels d'une représentation de l'espace. Tout roman, par conséquent, inévitablement sélectionne et par là même construit une représentation qui est formalisée et qui est sélective. Et ça dépend évidemment de son propre niveau d'abstractisation, de connaissance, de rationalité, et que sais-je. Un homme comme Julien Gracq, qui est historien, qui est géographe de spécialité, aura évidemment sur ce plan une espèce de supériorité, en tout cas une compétence beaucoup plus serrée sans doute qu'un quelconque jeune romancier débutant qui se débrouille comme il peut à travers sa vision de la spécialité. Mais cette sémiosis, je le disais, elle apparaît à deux niveaux, donc cette construction des représentations de l'espace, je dirais presque hors intrigue ou avant intrigue. Le deuxième niveau, c'est celui de la mise en relation de ces données de représentation spatiale avec les contraintes propres du récit. Parce qu'un romancier raconte une histoire, il imagine des personnages et il lui faut construire, mettre en place un système corrélatif, relationnel, entre ces représentations de l'espace et les exigences du récit qu'il a construit. C'est la mise en relation des données de représentation de l'espace et du récit fonctionne aussi sur un autre plan. Tout roman est intertextuel, tout romancier dispose d'une mémoire intertextuelle. Évidemment, il reçoit un certain nombre d'enseignements des romanciers antérieurs. Il a acquis des modèles, il va reprendre, peut-être transformer ces modèles, mais il n'écrit pas à partir d'une table ronde, d'une table rase. Lorsque Zola compose un roman, il a Balzac dans la tête, il a Flaubert dans la tête, qui lui ont déjà fondé un certain nombre d'éléments de sémiosis, justement. Alors ça, c'était la première observation préliminaire. La seconde, c'est que, bien entendu, l'étude de la spatialité romanesque implique plusieurs programmes d'observation. Je n'en spécifie qu'un. C'est-à-dire le traitement romanesque de l'espace à des fins de représentation et d'interprétation des phénomènes sociaux, des structures sociales, de leur fonctionnement et de leur vécu. Alors j'indique seulement pour mémoire d'autres programmes d'analyse qui ont déjà été abondamment développés d'ailleurs, mais qu'il faut toujours avoir en tête quand on s'intéresse à la spatialité romanesque, et qui sont probablement préalables d'ailleurs à l'étude d'une socialité de l'espace. Premier programme, le repérage de ces formants que j'évoquais tout à l'heure, de ces formants spatiaux sélectionnés et constitués par le roman, en système singulier. c'est-à-dire l'emplacement des objets, des êtres, les matières constitutives de l'espace représenté, les formes, les dimensions, les composantes matérielles, les phénomènes de lumière, etc. Enfin, j'en passe et des meilleurs. Le premier travail consiste par conséquent à essayer de faire l'inventaire et la reconstruction de ce système matériel, pourrait-on dire, hein, de la spatialité. Le second programme d'analyse, c'est l'étude que j'évoquais aussi à l'instant, des relations entre les lieux et les espaces d'un côté, et puis les éléments constitutifs des situations narratives et de leur transformation. Système actantiel, programme syntagmatique du récit, vous voyez les travaux de Grémas et de Claude Brémond sur ces phénomènes de logique du récit. Donc là, il y a évidemment un autre chapitre à ouvrir, je n'y toucherai pas dans le détail. Et puis il y a un troisième programme d'analyse aussi, c'est l'étude des valeurs psychiques de la relation du sujet au lieu et à l'espace, y compris éventuellement des relations aux frontières du pathologique. Il y a des névroses d'espace et on pourrait repérer quantité d'exemples dans le capital des romans français et étrangers à cet égard. Alors, vous voyez que je distingue lieu et espace. Hein. Vous pourriez me dire, mais pourquoi vous parlez de l'espace, puis vous parlez du lieu? Il me semble qu'on a là quelque chose d'un petit peu comparable à ce qui est dans l'étude de la temporalité, la distinction entre le moment et la durée, d'une certaine manière. Hein. Le lieu, c'est le point où il se passe quelque chose, c'est le point qui est mentionné dans un discours ou un récit. Hein. Dimensions très diverses d'ailleurs, la ville, le village, la salle de classe, etc. Quelque chose se passe en un lieu donné, la localisation. Et j'emploie l'image du point parce que quand on étudie la temporalité, on retrouve ça dans l'exposé des phénomènes de chronologie. Mais bien entendu, tout lieu se caractérise par des traits spatiaux, c'est ceux que j'évoquais tout à l'heure. Cette salle, est-ce qu'elle est vaste? Elle est rectangulaire, elle est éclairée, elle sert à des activités de type didactique. Il y a un certain nombre de caractéristiques, à la fois matérielles et fonctionnelles, qui définissent l'espace d'un lieu donné. Hein. Regardez dans Germinal, par exemple, les différences entre les caractérisations de la surface. Hein, et les caractérisations du fond. Le roman est vraiment construit sur cette opposition fondamentale, mais les deux lieux sont affectés de toute une série de traits, qui sont des traits qualitatifs en somme. Et là, je penserais plutôt à ce que, enfin, c'est métaphorique, hein, ce que les spécialistes du temps entendent quand il s'agit de la durée. Hein, le moment, c'est le point. La durée, c'est l'étendue temporelle. Ici, on a quelque chose de ce type. Le lieu, c'est le point. Et l'espace, c'est plutôt de l'ordre de l'étendue, des traits d'étendue d'un lieu donné. Alors voilà, ça, cette parenthèse étant faite, on s'y retrouvera plus facilement quand il s'agit de lieu et d'espace. Mais la spatialité, l'étude de la spatialité, en particulier en littérature, couvre évidemment les deux séries de considérations. Et ça peut définir deux programmes complémentaires d'analyse. Enfin, troisième réflexion préliminaire, je développerai sommairement, hein, bien entendu, il faut aller vite, mes réflexions selon deux perspectives, par commodité, je ne sais pas ce que ça vaut d'ailleurs. La première, qu'on pourrait dire ethnocritique, j'emprunte le mot par exemple, au livre que j'ai cité dans la bibliographie, le livre récent de Marie Scarpa sur l'ethnocritique du ventre de Paris. Évidemment, mes exemples sont souvent zoliens. Marie Scarpa, Le Carnaval des Halles, une ethnocritique du ventre de Paris d'Émile Zola. Et puis la seconde serait peut-être un petit peu plus sociocritique, si j'ai le temps de la développer. Alors, bien entendu, dans les deux cas, il s'agit d'observations tout à fait partielles, ouvrir des pistes, en somme, dans la logique des travaux antérieurs d'autres chercheurs. les aspects socio-critiques de cette réflexion sur espace et socialité du roman. Je m'en tiens à quatre points, peut-être énumérés d'une manière aléatoire. D'abord, quelques remarques sur le succès, sur le rendement romanesque de l'espace social, et en particulier de l'espace urbain. Ensuite, un petit arrêt sur image, avec un commentaire d'une notion avancée par l'ethnologue et anthropologue Marc Auger, ancien président de cet établissement, spécialiste justement des lieux, hein, pour une part. Il a quelque part lancé comme ça la notion de non-lieu. Alors, au passage, on peut poser cette question du non-lieu. Le troisième point concernerait ce que les géographes de géographie humaine, en particulier dans la tradition anglo-saxonne, appellent les routines d'espace. Et enfin, on terminerait sur ce plan par quelques réflexions sur les rituels d'occupation de l'espace. Et là, c'est plutôt du côté d'une certaine sociologie américaine qu'il faudrait se tourner, cette sorte de micro-sociologie qui a été illustrée par les travaux d'Erving Goffman. J'ai cité aussi ça dans la petite bibliographie partielle qui a été distribuée. Alors, oui, on constate que l'espace urbain, c'est un invariant de la littérature romanesque, quatre traditions françaises, on pourrait trouver, et pour la période moderne, on pourrait trouver des dizaines, des centaines d'exemples dans le roman du 19e et du 20e siècle. Ce sont, la plupart du temps, des romans de la ville, en tout cas les grands titres qui ont surnagé. J'évoquais Le Ventre de Paris à l'instant, on peut penser à L'Assommoir, on peut penser à Germinie Lacerteux, des frères Goncourt, à L'Éducation sentimentale, bien entendu, de Flaubert, aux Misérables de Hugo, à Ferragus de Balzac, à Splendeur et misère des courtisanes, et vous pourriez aligner avec moi quantité d'autres œuvres de ce genre. Au XXe siècle, Jules Romain, Aragon, Breton, Ecnadja, Simenon, Léo Mallet dans le policier parisien, Modiano et Pérec et combien d'autres. Alors, quelles sont les raisons du succès de ce motif? Peut-on apercevoir plusieurs. D'abord, le public des romans est urbain, en général. Ensuite, la ville, en tant que telle, recèle une grande potentialité dramatique, probablement plus que la vie rurale, exception en fait de romans comme La Terre, par exemple, ou Les Paysans de Balzac. Le romancier préfigure toujours, ou se préfigure toujours, donc ça, en esprit, certaines idées du lecteur, c'est peut-être une commodité pour un romancier de faire en sorte que le lecteur puisse s'immerger, justement, pour reprendre l'image déjà discutée, dans un paysage reconnu, un paysage dont les formes appartiennent à sa mémoire. Autre raison de ce succès, le goût des romanciers, quand ils sont artistes, quand ce sont de grands romanciers, ou même quand ce sont de moins grands romanciers, leur goût pour la peinture paysagère et pour un paysage de la ville qui recèle une quantité considérable de matières différentes, de formes différentes, de couleurs, de lumières, de rythmes différents. Il y a donc une espèce de matière plastique, facile à modeler, à mettre en forme. L'espace de la ville est à la fois un espace fixe, hein, architecture, rue, plan, etc., mais un espace modelable ou remodelable à volonté pour un romancier inventif. Même chose avec cette possibilité qu'offre l'espace urbain de mise en scène pittoresque des êtres et de leur mouvement. Enfin, la ville, c'est le lieu de la foule, et le roman moderne, en tout cas le roman du 19e siècle, mais aussi les romanciers que j'évoquais tout à l'heure, ont toujours manifesté une grande curiosité pour les foules, pour les mouvements collectifs, pour les révoltes collectives, les passions collectives, etc. Voilà, on pourrait trouver encore d'autres raisons. Peut-être la dernière serait l'idée que, par sa complexité, l'espace urbain offre aux romanciers matière à toutes sortes de performances d'agencement, toutes sortes de performances de sélection et d'agencement des lieux et des espaces. Des performances qui sont à la fois canoniques, parce qu'elles reposent en permanence sur une tradition intertextuelle qui offre beaucoup de modèles, et délicate si justement on veut produire une vision originale. Donc il y a une espèce de résistance de cette matière romanesque qu'est l'espace urbain et qui évidemment sollicite la curiosité des performeurs. En tout cas, c'est un ensemble de motifs d'une très grande richesse, d'une très grande productivité, à la fois sur le plan de la représentation, éventuellement artiste, sur le plan de la dramatisation, construction d'intrigues qui se passent tout naturellement dans la ville, et sur le plan de la symbolisation. Paris est très souvent traité par les romanciers comme une espèce de lieu d'où les images symboliques et mythiques surgissent sans même qu'on ait à les chercher. Penser par exemple chez Zola à Paris chantier, à Paris lupanar, à Paris machine dans les Halles, dans l'Assommoir, à Paris femme et combien d'autres. Donc l'image, la métaphore et le symbole émergent tout naturellement du motif. Alors, la deuxième question que je voulais évoquer, c'était celle-ci. Existe-t-il des espaces au degré zéro, hein? Existe-t-il des non-lieux? Je me suis arrêté un peu sur les propos très suggestifs de Marc Auger. Marc Auger, qui par exemple dans Le Monde, enfin je cite dans la bibliographie les principaux ouvrages de Marc Auger, mais je m'étais arrêté sur une interview qu'il a donnée au Monde le 5 novembre 1991, et c'est là qu'il esquissait rapidement une théorie des non-lieux. Et il disait ceci: ce que je trouve étonnant dans le métro, c'est cette coexistence des solitudes, des ruminations parallèles. L'ordinaire, c'est le silence des individus pressés les uns contre les autres aux heures de pointe. Et pour Marc Auger, New York est un de ces hauts lieux du tourisme transformés en ce que l'on pourrait appeler des non-lieux. Alors, c'est vrai aussi des aéroports, des autoroutes, des grandes surfaces. Et Auger dit ceci: on n'y dialogue qu'avec des pancartes, parle des grandes surfaces. On n'y dialogue qu'avec des pancartes, c'est vrai des aéroports aussi, hein. On n'y dialogue qu'avec des pancartes, des haut-parleurs ou des écrans. On y retrouve cette juxtaposition des solitudes si remarquable dans le métro. Alors, c'est miroitant, hein, cette rêverie ou cette réflexion sur la notion de non-lieu. On peut constater que, sur ce point, le roman a anticipé les réflexions des ethnologues. Probablement parce que le romancier est par nature, par profession, attentif à tout ce qui est émotionnel, phénomène d'accablement dans la ville, de déréliction, de solitude, éventuellement d'humour noir, avec toutes les possibilités stylistiques que ça offre. Et là, bien entendu, à qui peut-on penser, sinon à Céline, hein, vous vous rappelez, dans Voyage au bout de la nuit, l'arrivée de Barnabu à Manhattan. Manhattan, la ville debout, comme dit le texte. Ça se passe dans les années 20 de l'autre siècle, du 20e. Et Barnabu, déjà, s'immergeait au cœur d'une foule, comme il disait, qui moutonne, en route, discontinue, morne. Et je cite: « Il encheminait déjà tellement d'autres, de gens, des petits et des gros, qu'ils m'emmenèrent avec eux comme une ombre. Ils remontaient comme moi dans la ville, au boulot sans doute, le nez en bas. C'étaient les pauvres de partout. Alors, voilà, on trouve une espèce d'apparentement, je crois, c'est évident, entre un texte comme celui-là, qui lui se situe dans l'univers de la fiction et de la représentation romanesque, et puis les réflexions professionnelles de quelqu'un comme Marc Auger. Céline est là, ethnologue, à sa façon aussi de la vie quotidienne. Seulement, il ajoute, vous le sentez bien, on le sent, il suffit de l'écouter, hein, il ajoute à son analyse, à sa vision, quelque chose que l'ethnologue n'est pas vraiment équipé pour traduire, pour exprimer, parce qu'il n'est pas romancier, il n'est pas poète. Hein. Ce que Céline ajoute, c'est justement ce sentiment de l'accablement, de la pesanteur des choses, de l'encombrement, de la solitude au milieu de toute cette foule, etc. Et puis, bien entendu, pour conjurer immédiatement le désespoir, l'humour noir de Céline et aussi ce qui n'appartient qu'à lui, c'est-à-dire le rythme, l'expressivité rythmique, on retrouvera tout à l'heure un autre exemple tiré aussi de Voyage au bout de la nuit. Alors, bon, est-ce qu'il faut prendre ça absolument pour argent comptant? Est-ce que cette théorie du non-lieu, qui serait un peu la théorie négative et la théorie au degré zéro d'une étude de la socialité de l'espace, est-ce que cette idée du non-lieu tient la route complètement? Moi, je me permets un petit peu d'en douter. D'abord parce que le non-lieu a une fonction sociale. D'ailleurs, tous les exemples que cite Marc Auger, le cas de Bardamu aussi le montre bien. Le non-lieu a une place dans un réseau de lieux dont chacun a sa fonction. Et il est improbable que ces lieux, considérés comme non-lieux, puissent à un moment donné se détacher du système pour devenir des sortes d'électrons libres. Le non-lieu, d'autre part, a ces moments de sociabilité, je dirais, ces cellules de sociabilité. Même l'exemple de l'aéroport, même l'exemple du métro, peuvent être analysés de telle manière qu'on évoque, bien entendu, ces micro-espaces de sociabilité qui fonctionne au cœur du non-sociable. La famille est là, elle fait la queue en attendant de monter dans l'avion, mais elle échange une conversation, elle peut se mettre à converser avec les voisins. Les queues ne sont pas totalement muettes. Dès qu'il se passe quelque chose, tout un entretien collectif se met en route. Donc il y a des cellules de sociabilité, il y a des cellules d'échange qui nous conduisent à relativiser un petit peu la notion en question. Et puis alors, pour introduire à la question suivante, on pourrait dire que le non-lieu n'est pas tout à fait un néant spatial, n'est pas un néant spatial, parce que c'est probablement ce type de lieu qui est le support principal des routines de la vie quotidienne. L'autoroute du week-end, le métro qui conduit les travailleurs le matin et le soir de chez eux au travail et du travail chez eux, l'aéroport avec tous les commerciaux qui prennent l'avion le matin et qui rentrent le soir, la banlieue, etc. Vous les prenez les uns après les autres, tous ces exemples, et on est bien obligé de constater qu'ils ont tous cette fonction quand même très positive, et non pas négative, mais positive et tout à fait importante d'être ça, l'instrument, en somme, d'une part importante de l'activité des sujets. Il y a un petit livre de Perret qui est très, très suggestif et qui mériterait un commentaire, c'est « Tentative d'épuisement d'un lieu parisien ». Vous vous rappelez peut-être, Perret s'assied à la terrasse d'un café, place Saint-Sulpice, et il note, minute après minute, tout ce qui se passe devant lui. Il est dans une espèce, lui, de non-lieu. Hein, il ne discute avec personne autour de lui, se contente d'observer le spectacle de l'activité parisienne, les bus qui passent, les passants. Enfin bref, lisez le texte, c'est un petit chef-d'œuvre. Ce que repère Perec, justement, c'est la relation, cette espèce de non-lieu d'une place publique, et puis les activités browniennes, si je puis dire, browniennes de la population parisienne. Alors, ça nous introduit à la question des routines. Là aussi, les travaux des géographes et des ethnographes et le pouvoir de divination, de représentation, d'invention des romanciers sont en corrélation étroite. Enfin, pour comprendre ce que fait le romancier, il faut regarder ce que nous enseignent ces spécialistes de la spatialité sociale. Et inversement, on constate que bien souvent, les romanciers ont anticipé sur les travaux de ces spatiologues et même sont allés plus loin qu'eux dans la compréhension du rapport entre les individus et les espaces en question. Longtemps, la géographie humaine s'est intéressée essentiellement aux phénomènes de peuplement, aux phénomènes d'habitat collectif, de distribution des populations dans différents lieux géographiques particuliers, aux moyens d'existence de ces populations, à leur production, etc. Mais il y a une vingtaine d'années, on a vu apparaître, surtout chez les Anglais et les Canadiens, des livres très, très suggestifs, des articles très suggestifs qui, eux, alors, dépistaient dans les populations bien spécifiées, un quartier de ville, une ville, une banlieue, etc., les phénomènes de place occupés par les sujets et de déplacement. Et bien entendu, les règles qui présidaient à ces insertions dans une place donnée et à ces déplacements d'une place à une autre. C'est ce qu'ils appelaient les time-space routines, hein, les habitudes, en somme, les routines de temps et d'espace. Alors là, les observations portent sur les modes d'occupation et de parcours de l'espace. Il s'agisse de l'espace urbain ou de l'espace rural, mais leurs observations se faisaient un petit peu pour les mêmes raisons qu'on évoquait tout à l'heure au moment du roman, sur des espaces urbains. Il y a des routines dans la vie rurale, bien entendu, hein, variant avec les saisons, avec les heures du jour, etc. Mais elles prennent un caractère nettement moins spectaculaire, nettement moins collectif que les routines urbaines. Donc il s'agit d'étudier la relation entre l'individu ou le groupe et son territoire de vie. On ne va pas se livrer à une description cartographique et analytique, bien sûr, des grands espaces naturels en tant qu'ils sont comme ça habités par des populations nationalement ou régionalement déterminées. Non, on va s'intéresser plutôt à des micro-territoires et on va examiner comment ces micro-territoires sont ressentis, pensés, vécus par les individus qui les habitent. Alors, on peut penser à ce fameux slogan de mai 68 qui résume purement et simplement ce type d'observation et de considération. Métro, boulot, dodo. Rappelez ce qui s'affichait sur les murs du métro, métro, boulot, dodo. En effet, on étudie à la fois, la place des gens et surtout leur déplacement d'un lieu à un autre, pour autant que ces déplacements soient répétés et réglés. Hein, je crois que c'est important. Ce qui compte, c'est la répétition des itinéraires et leur réglage. Ainsi, on peut délimiter des cadences, des aires caractéristiques de chaque groupe de métier, de chaque groupe de sexe, chaque groupe d'âge. Et bien sûr, les rythmes temporels sont aussi importants à prendre en considération que les rythmes spatiaux. Hein. C'est le matin qu'on prend le métro pour aller au boulot, c'est le soir qu'on en revient, etc. Il y a l'heure du dîner, il y a le coucher des petits, etc. Il y a toute une série d'activités comme ça qui sont de type habituel et routinier et qui sont réglées par les exigences du fonctionnement social. Alors, il suffit de lire ces livres. Hein. Les tables des matières sont très précises, une classification très rigoureuse, je n'entre pas dans le détail, mais j'en ai cité deux ou trois dans la bibliographie. Leur lecture est très, très intéressante, très mobilisatrice. Si on passe au roman, si on examine ce que propose le roman en matière d'analyse, de critique des routines. On s'aperçoit que là non plus, le romancier n'a pas attendu les savants et que le roman offre toutes sortes de pistes pour étudier à la fois le savoir que le romancier investit dans son texte à cet égard, hein, sur ce point précis, et pour étudier bien entendu le rendement narratif, le rendement stylistique, le rendement esthétique qu'il en tire et qui transforme, bien entendu, le savoir en question. La routine spatiale peut être occasionnelle dans une œuvre romanesque, mais elle est très souvent décrite en tant que telle, c'est-à-dire qu'elle elle peut occuper une surface importante du roman. Je citais tout à l'heure Germinal. Vous vous rappelez que c'est le deuxième chapitre, je crois, de Germinal, est tout entier construit sur ce motif de la routine. On assiste au réveil de la famille Maheu à 3h ou 2h du matin dans la nuit, au départ des mineurs sur la route, les heures sont fixées, et en même temps, les trajets, l'arrivée dans la salle où on prend ses vêtements de travail, sa lampe des mineurs, etc., la descente par la cage d'extraction, le trajet dans les galeries pour aller jusqu'au poste de travail. Zola, qui d'ailleurs était descendu au fond lui-même, il avait fait cette expérience assez unique dans l'histoire des romanciers français du 19e siècle, il était descendu au fond et il avait parfaitement repéré la structure de ce réglage des déplacements. Ce qui est intéressant, c'est que vous lisez Germinal et bon, vous acquérez un certain type de savoir sur ce qu'était le métier de mineur dans les années 1880 et sur ce qu'il est resté longtemps. Mais en même temps, vous pénétrez une atmosphère qui psychologique, qui est constitutive, bien entendu, de tout le climat qui va petit à petit se construire à l'intérieur du roman, la fatigue, la lassitude, la faim, la révolte contre certaines conditions de travail, la montée des préparatifs de ce qui va devenir, non pas une révolution, mais enfin une révolte. Donc l'intensité dramatique croissante du roman, elle est dès le départ en place dans ce repérage lancinant des obligations, des contraintes de routine spatiale et temporelle auxquelles sont astreints les personnages. On a donc là un double effet possible. Un effet de plaisir pour le lecteur, en somme, à la fois cette acquisition d'un surplus de savoir par rapport à son expérience propre, et puis la contemplation d'un objet qui devient singulier par l'association d'une représentation d'un espace donné et des autres facteurs du récit et de la fiction. Je prenais l'exemple de Germinal, mais on peut en prendre d'autres. Il y a l'exemple de l'Assommoir, on l'appelait au début de l'Assommoir, mais c'est vrai aussi au début de Ferragus, de Balzac, je crois. On assiste à un moment donné à la descente de toute la population ouvrière de Paris qui vient de la Courtille, qui vient de la banlieue nord et qui petit à petit coule à travers les rues, hein, une espèce de fleuve. Je ne sais pas si Zola s'est inspiré de ces pages de Ferragus. Mais le début de l'Assommoir, avec Gervaise qui est au premier étage de l'hôtel où elle habite et qui assiste à ce défilé des travailleurs descendant vers le centre, c'est un très bon exemple aussi pour réfléchir à la romancisation de ces routines d'espace. La routine est collective, en l'occurrence, mais elle peut être individuelle. Là, je prendrais un exemple qui n'est pas romanesque, mais enfin qui est aux limites du roman. C'est l'exemple du garçon de café de Sartre. Hein. Vous vous rappelez, je ne sais plus dans quel ouvrage c'est de Sartre. C'est dans L'être aimant, hein, oui. Ce garçon de café qui, toute la journée, vit de cette routine. Aller chercher, prendre les commandes, aller chercher la consommation, la servir, etc. Et Sartre explique que, eh bien, que le garçon de café joue à être garçon de café, hein, et que sa nature profonde, c'est d'être en somme en scène. Et d'une certaine manière, l'exemple du garçon de café de Sartre préfigure les travaux de Goffman sur la mise en scène de la vie quotidienne. Mais le plus bel exemple est encore fourni par Céline. Hein. Vous vous rappelez dans J'y reviens, vous vous rappelez la scène du fast-food dans Voyage au bout de la nuit. Elle se situe un peu après le passage que j'ai lu tout à l'heure. Bardamu parcourt ce boyau qui est Broadway, hein, à l'intérieur de New York, qui est absolument ahuri par la hauteur des immeubles, et il meurt de faim au bout de quelques heures. Et bon, il n'a plus que 3 dollars en poche. Il entre au hasard dans un de ces établissements où on sert de manière extraordinairement réglée, dans le temps et dans l'espace, on sert la nourriture à des clients qui deviennent des espèces d'automates, hein, guidés vers la place qu'ils doivent occuper, guidés ensuite vers la sortie. Et y a une page absolument fantastique là sur ce qu'est justement la routine du fast-food à Manhattan dans les années 30. Ça n'a peut-être d'ailleurs pas beaucoup changé, que je sache. Alors, les clients anonymes, bien entendu, du fast-food, c'est une sorte de collectivité émanant de je ne sais quel non-lieu. Justement, les clients anonymes du fast-food y entrent et y circulent en somme en pilotage automatique. Hein. Donc, ils représentent un comble de la routine spatio-temporelle et d'autre part, toute l'économie du lieu, toute l'économie du fast-food, de la cafétéria, hein, on peut penser à McDo, que sais-je, toute l'économie du lieu est fondée sur un calcul préalable des dimensions, des voies de passage, des points d'arrêt, des points de sortie et de la durée type du processus de consommation. On se sert, on s'assied, on mange, on paye, on sort, tandis qu'un autre consommateur, comme une boule de jeu, je ne sais plus comment on les appelle dans les cafés, de flipper, comme une boule de flipper, un autre consommateur vient s'installer sans tarder à la place libérée. Et alors, le texte, eh bien, est une illustration de la notion de place-balai, hein, qui est employée aussi par ces géographes dont je parlais tout à l'heure. Le balai des places et le balai des déplacements. Autant d'opérations élémentaires de survie telles que la machinerie sociale les a mises en place dans l'espace urbain. Mais alors, ce qui se passe avec Céline, avec ce passage, c'est que tout l'épisode est construit de telle manière que Bardamu, qui est comme un électron libre, étranger à tout ce monde, va détraquer le système et va créer le scandale. se contente pas de s'asseoir à sa place et de manger ce que la serveuse lui a apporté, il se met à regarder la serveuse. Alors ça, c'était évidemment l'interdit absolu, la transgression totale. Il regarde la serveuse, elle est jolie, et il commence à le lui dire et même à lui proposer de l'épouser. Alors tous les consommateurs autour sont épouvantés par cette entorse au fonctionnement du système. Non content de lui faire cette déclaration, lorsque la serveuse regagne le comptoir où elles sont toutes alignées, Vardamu la suit. Donc il a transgressé à la fois les règles du non-usage de la parole, parce que tout le monde doit se taire. Lui, il a parlé, c'est déjà un scandale, mais il a transgressé évidemment les règles qui ordonnaient le régime des déplacements, le régime de la routine. À ce moment-là, un colosse, tout de blanc, vêtu, dit le texte, arrive, s'empare de lui et le pousse vers la sortie comme un chien, dit le texte. Alors, on voit comment le système est démonté et en même temps, avec une forme d'humour et de comique détruit de l'intérieur, tout simplement par l'intervention d'un seul individu. Mais tout ça est vrai, est construit de manière chorégraphique. C'est-à-dire que Céline pressent et exploite le caractère chorégraphique de toutes ces activités routinières auxquelles nous sommes astreints. C'est une danse. Rien d'étonnant d'ailleurs, parce que Céline était un fanatique admirateur de la danse et construit sa scène effectivement comme un ballet. On pourrait imaginer un chorégraphe qui s'emparerait de cette scène et qui, sur scène, la transformerait en un régime de danse. Quand on lit la page en question, on pense d'ailleurs à Charlot. Vardamu la doit beaucoup, sans doute, au personnage de Chaplin, qui lui aussi, dans ses films, rappelez, était le démolisseur de tout le système de conventions routinières sur lequel reposait sa société. Alors, vous voyez, il y a un rendement intéressant pour une étude de la spatialité romanesque de l'observation de cette topographie et de cette microsociologie des routines d'espace qui sont aussi des routines de temps. Mais on voit bien que le romancier, là encore, dispose d'un surplus de savoir et d'un surplus de performance, d'un surplus de talent par rapport aux sociologues. Il dispose de la mise en forme, il dispose de la mise en rythme, j'évoquais à l'instant cette chorégraphie, il dispose par conséquent de l'art propre du roman qui peut porter à un point de perfection son apport d'information et d'analyse. Si on avait le temps, on fait apparaître l'envers de cette médaille, c'est-à-dire que si les routines sont un endroit, il y a un envers qui est la non-routine de l'espace, c'est-à-dire la flânerie, l'errance. C'est plus difficile à étudier de manière classificatrice, programmatique, analytique. Alors, les routines elles sont des phénomènes collectifs, donc on peut en rendre compte par des schémas, par des analyses méthodiques, etc. La flânerie, par définition, c'est de l'ordre de l'individuel et de l'aléatoire, c'est peut-être un petit peu plus délicat, mais c'est aussi une forme d'usage, d'occupation et d'exploitation de l'espace. Et les romanciers, bien entendu, s'en sont bien aperçus. Flaubert, dans l'éducation sentimentale, manipule d'ailleurs l'endroit et l'envers. Dans l'éducation sentimentale, il y a des scènes qui sont parfaitement routinières. On y reviendra peut-être. Mais il y a aussi des passages innombrables dans lesquels on voit Frédéric Moreau errer au hasard à travers Paris dans l'espoir de retrouver les traces de Marie Arnoux. C'est un très beau passage. Les deux portées ont été travaillées complémentairement par le romancier. Alors, avec la scène du voyage que j'évoquais à l'instant, la scène du fast-food, on est tout près du quatrième point que je voulais évoquer. C'est celui des rites et des rituels d'interaction. Je prends ce titre en l'empruntant à Goffman. Goffman, qui est connu en France, puisque deux de ses ouvrages ont été traduits, je crois, peut-être même davantage. Enfin, les deux plus connus, c'est La mise en scène de la vie quotidienne et Les rites d'interaction, publiés aux éditions de Minuit. Kaufmann était professeur de sociologie à l'Université de Chicago et il est mort il y a peut-être maintenant une dizaine ou une quinzaine d'années. En effet, pendant le trajet qu'impliquent ces routines d'espace, ou au-delà du trajet, il y a inévitablement la rencontre. On arrive au bureau et on tombe sur le chef de bureau et immédiatement s'institue un certain mode de communication qui est réglé, hein, dans la plupart des cas, qui est ritualisé. Je prends cet exemple pour en trouver des centaines d'autres. Donc la problématique de l'interaction et de ses règles est complémentaire de la problématique des systèmes qui gouvernent le jeu des places et des déplacements. Et on s'aperçoit qu'une grande partie de l'espace social est balisée, est organisée de telle manière à permettre très grande diversité de ces micro-cérémonies, hein, répétées, parce que pour qu'on parle de rite ou de rituel, il faut qu'il y ait le phénomène de la fréquence, de la répétition elle-même réglée. Et ceci aussi peut s'étudier soit sous le régime de l'observation de type sociologique, soit sous le régime de l'investigation ramanesque, les deux, encore une fois, étant parfaitement complémentaires. Je ne sais pas si vous avez vu Melinda et Melinda de Woody Allen. On n'est plus dans le roman, hein, on est quand même dans le récit. Et c'est un film qui repère bien, justement, ces deux niveaux. Vous rappelez le début du film, il y a là deux cinéastes qui discutent sur la couleur qu'on peut donner au récit d'une intrigue quelconque, d'une aventure quelconque, ou bien le noir, ou bien le rose, ou bien le tragique, ou bien le comique. Et puis, petit à petit, on oublie ces deux cinéastes et on entre dans la représentation de deux histoires différentes qui sont jouées par la même actrice, hein, bien entendu, mais bien entendu sur le plan de la fiction aussi, ce sont des univers familiaux, professionnels, différents. Mais on voit bien que Woody Allen a imaginé une sorte d'encadrement méta-cinématique au film qui va suivre. À la limite, on pourrait faire sauter un directeur de salle peu soucieux de son professionnalisme pourrait très bien faire sauter et le début et la fin, parce qu'à la fin du film, on se retrouve et les deux cinéastes tirent la moralité des deux histoires qui se sont racontées, qu'ils ont inventées, et on n'aurait que les deux histoires. C'est quand même ça qui occupe le cœur du film. Eh bien, les deux histoires en question, hein, la fille tragique et la fille comique, enfin, si on peut dire, sont là comme les agents de toute une série de situations qui illustrent bien la prégnance, la présence massive des rites d'interaction dans la mise en scène de la vie quotidienne. Hein. Qu'est-ce que vous retrouvez ? Vous retrouvez le dîner, parfaitement. Il y a des détraquements, bien entendu, toutes les situations se détraquent, mais au départ, elles sont cadrées de manière à paraître comme bien ritualisées. Il y a la démarche professionnelle. Hein. Les hommes sont assez mal servis dans ce film et les deux hommes du film sont un peu des auteurs ratés, Il cherche à... Non, il y a un comédien et il y a un auteur, mais dans les deux cas, ce sont deux personnages qui ne réussissent pas vraiment dans leur projet. L'un ne réussit pas à obtenir les rôles qu'il souhaite, il est condamné aux publicités, et l'autre ne réussit pas à faire admettre un scénario. Mais donc il y a la démarche professionnelle qui, elle aussi, débouche sur un jeu de rencontres réglées. Il y a la présentation d'un amant possible à chacune des deux jeunes femmes. Il y a la scène de séduction. Il y a la partie, espèce de cocktail organisé justement pour permettre la présentation d'un amant possible. Il y a l'invitation à la campagne, à Long Island, bien entendu, dans les Hamptons, palais merveilleux construit par un richissime dentiste. Les dentistes sont très maltraités dans ce film de Woody Allen. Il a probablement une dent, c'est le cas de le dire, contre son dentiste. Il y a le déjeuner ou le dîner au resto français, parce que le dîner au resto français à New York, ça fait partie du rituel aussi important. Bref, on évolue à l'intérieur d'un système des rituels new-yorkais. C'est vraiment un très très bon exemple. Mais il s'agit du cinéma. Alors, dépêchons-nous un petit peu. Si on voulait, peut-être il faudrait prendre conscience d'abord, avant l'étude du rendement romanesque de ces rites d'interaction. Je proposerais qu'on prenne conscience d'abord d'une sorte de typologie du vécu spatial. La classification à laquelle j'ai songé est évidemment sommaire et très discutable, mais il me semble qu'on pourrait distinguer, un, l'espace pragmatique, les adjectifs valent ce qu'ils valent, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'environnement matériel, institutionnel, social des sujets. Deux, l'espace cognitif, c'est-à-dire tout ce qui concerne les données abstraites intériorisées par le sujet à partir desquelles il peut penser l'espace. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, haut, bas, loin, près, clair, obscur. Profane, non profane, occupé, vide, voilà. Où que j'entre, où que j'aille, je dispose d'un corps de qualifications qui me permettent immédiatement d'identifier et de caractériser l'espace où je me trouve. D'où cela vient-il? C'est de toute façon linguistique, c'est de toute façon sémiotique, c'est aussi un acquis qui vient de l'expérience familiale que c'est. Appelons ça l'espace cognitif. Trois, l'espace perceptuel. C'est-à-dire la sélection par le sujet d'un certain nombre de traits de reconnaissance et de définition de son cadre de vie. Je suis à la campagne, je suis en ville, je suis en banlieue, je suis au centre de la ville, je suis dans un immeuble, je suis dans une maison de campagne, que sais-je. Bon, je repère de manière quasi immédiate à partir de traits de reconnaissance. Acquis, intériorisé, le lieu où je me trouve. Quatre, l'espace qu'on pourrait dire existentiel, c'est-à-dire les caractéristiques professionnelles, sociales, culturelles de l'espace auquel j'appartiens ou de l'espace auquel je me trouve momentanément. Je suis à l'université, je suis à l'atelier. Je suis au cœur d'une manif, je suis en prison, etc. Voilà. Cinq, l'espace affectif, c'est-à-dire tous les aspects euphoriques ou dysphoriques de la mise en situation du sujet dans un espace donné. Je suis heureux ou au contraire, je suis en proie au malaise. Vous vous rappelez Le Ventre de Paris, le personnage de l'ancien déporté, Florent. Déporté à la suite du coup d'État du 2 décembre 1851. Il a passé 15 ans ou 10 ans en Guyane, il s'évade, il revient dans les Halles, il est recueilli par son frère qui est charcutier, par sa belle-sœur, et puis on essaie de le caser et on en fait un inspecteur de la marée, c'est-à-dire une sorte de fonctionnaire local qui vérifie que tous les matins que les poissons sont frais. C'est à peu près ça. Et bien entendu, le personnage, d'abord, on voit bien qu'il est astreint à une routine. Tous les matins, faut qu'il fasse le tour des halles. On voit bien qu'il est astreint à un certain nombre de rencontres, et des rencontres qui souvent sont difficiles, parce que les poissonnières ne le voient pas avec un œil extrêmement favorable. Il y a des scènes assez violentes au cours desquelles Florent fait jeter une truite pas fraîche, d'où la bataille entre les poissonnières, le malheureux, etc. Et puis, alors, sur le plan affectif, c'est un exemple du mal-être spatial. Malheureux Florent est perpétuellement écœuré, il est perpétuellement en proie à la nausée, le mot dans le texte, au cours de sa traversée de tous ces espaces du mou, du visqueux. Hein. Non seulement les poissons, mais les volailles, les fromages, enfin, tout cet univers de la nourriture, qui explique d'ailleurs la métaphore titrale du ventre de Paris. Hein. D'un côté, il est effrayé par les superstructures métalliques de Baltard, et de l'autre, il est totalement écœuré par ce labyrinthe nauséeux de la nourriture et de la consommation. Ça finira très mal. Il va se retrouver mêlé de nouveau à un complot dans lequel la police a mis le nez, et on va le réexpédier au bagne. Donc, il est transformé en excrément, c'est-à-dire il a été digéré par l'univers des Halles, et hop, il est excrété, il est expulsé au bout du compte. Alors là, il y a une espèce de mythe extraordinaire de l'opposition entre l'univers du gras et bien sûr l'univers du maigre. Bon, donc c'est intéressant à suivre toute cette affectivité de l'espace. Il y a d'autres cas de malaise. Hein. Je pensais aussi, mais alors c'est d'un tout autre type, à la visite de Frédéric Moreau à Auteuil, dans l'éducation sentimentale. Frédéric Moreau rend visite à Marie Arnoux, qui est un peu exilée dans un petit pavillon d'Auteuil. Et Auteuil, à l'époque, c'est la campagne, bien entendu. Et Frédéric arrive, il sonne à la porte, on entend un bruit grinçant, la sonnette est rouillée, il entre et la grille grince, la bonne arrive et on entend le claquement de ses pantoufles sur le ciment de l'allée, et puis il voit apparaître ce pavillon qui est à la fois normand, suisse, vieillot, les fenêtres sont déglinguées, enfin la pauvre Marie Arnoux vit dans un univers effroyablement dégradé. Hein. Et c'est là que les deux jeunes gens vont se retrouver pour tenter, non pas de vivre leur amour ou un amour, mais en fait pour évoquer le passé. Donc il y a une espèce de double fuite qui s'instaure là, et tout ça baigne dans une atmosphère de misère matérielle et mentale. Hein. Donc, l'espace, il est tout entier, travaillé de l'intérieur par Flaubert, de manière à sécréter et à susciter cette sorte de perception par le lecteur de la misère en question. Et puis, sixièmement, peut-être alors justement, l'espace interactionnel. C'est-à-dire les caractéristiques d'espace et de vécu de l'espace qui sont induites par l'interaction et la communication entre sujets. Bien entendu, ça vaut ce que ça vaut, encore une fois, peut-être pas grand-chose, mais dans tous ces cas, il y a de la socialité, explicite ou implicite, et d'autre part, tous ces types, ces catégories spatiales sont étroitement interdépendantes. J'emprunterai encore un exemple à Flaubert, le dîner chez les Dambreuses. Grande scène, génial. Hein. Ça se situe après les journées de juin 48. La répression a réglé le problème social momentanément, et cette bourgeoisie parisienne respire. Hein. Et la plupart des personnages que Flaubert a empruntés à sa connaissance de la bourgeoisie parisienne se retrouvent dans un grand dîner donné par le banquier d'Ambreuse et sa femme. C'est une scène merveilleuse, pas tellement pour, enfin, bien sûr pour son contenu, pour l'ironie de Flaubert à l'égard de ces gens, mais aussi par sa construction, par la combinatoire qu'a créée Flaubert et qui est largement une combinatoire de lieux et de traits spatiaux. Flaubert est très attentif, par exemple, au dispositif de la table. Et si vous lisez le passage, vous vous rendrez compte que c'est vraiment difficile de se représenter la place des gens. Elle est très importante dans la scène, parce que, bien entendu, tout le monde parle avec, enfin, en tout cas, les personnages qui sont autour de la table pendant le dîner tiennent conversation. Mais pour qu'ils puissent tenir conversation, il faut qu'il y ait du voisinage, il faut qu'il y ait un rapport direct, à côté ou en face. Etc. Flaubert ne dit absolument pas comment il a placé les personnages. Et il faut tirer de la scène une espèce d'hypothèse sur la place. Où est Madame Nombreuse, où est Monsieur Nombreuse, où est Frédéric Moreau, où est Marie Arnoux, où est le père Roc, où est la petite Roc, etc. Parce que va s'enclencher, encore une fois, un système conversationnel extrêmement complexe, très important, pour la suite dramatique du roman. Hein. Et voilà, donc il faut prendre conscience du dispositif local qu'a imaginé Flaubert avec cette table. Mais d'autre part, après le dîner, on change de lieu, on s'en va au jardin, et là, de nouveau, se forment d'autres groupes qui sont spatialisés autrement. Cette fois, les femmes sont d'un côté, les hommes sont de l'autre, les sujets de conversation sont sexuellement réglé, si je veux dire, les hommes parlent politique et les femmes parlent de Frédéric Moreau qui est là-bas tout seul dans son coin et qui évidemment est probablement le plus séduisant des personnages masculins. Tout ça repose sur un jeu de place où toutes les caractéristiques que j'énumère à l'instant se trouvent fondues, amalgamées, mais où aussi le rituel est constamment important. Rituel des plats qui se succèdent, rituel de l'apparition des domestiques, rituel de l'organisation de la conversation d'un point de la table à un autre, rituel du café qu'on va servir, des glaces qui vont apparaître, de cet emplacement des personnages dans le jardin, rituel aussi de l'heure qui passe, il arrive un moment où il faut partir, c'est normal. C'est un montage fascinant de maîtrise combinatoire, mais à la base, il y a ce savoir sur, encore une fois, la mise en scène sociale de la vie quotidienne que les sociologues étudieront peut-être de manière plus classificatrice, encore plus précise, plus tard. Donc à la base, un système socio-spatial, mais par-delà ce système, la compétence cognitive, oui, de Flaubert, et puis son art de la combinaison et de la composition. Alors voilà, on pourrait dire encore beaucoup de choses là-dessus. Les rituels n'engagent pas seulement, ça va soit à partir de ce que je disais à l'instant, de l'exemple que je prenais, les rituels n'engagent pas seulement des places respectives, des réglages de lieux. Ils engagent probablement toujours en même temps des usages de la parole. La parole et le placement, et les changements de place sont étroitement associés. Flaubert est une réserve fantastique d'exemples. Hein. Il a tout compris bien longtemps avant les linguistes et bien longtemps avant les sociologues et anthropologues. Il suffit de le lire pour découvrir des cas qui se prêtent aux commentaires. Je pense à la scène du club de l'intelligence dans l'éducation sentimentale. On rappelait peut-être Frédéric Moreau, à un moment donné, a une ambition politique. On est dans la période intermédiaire entre février 48 et juin 48. Il va être question de l'élection d'une assemblée et Frédéric Moreau se verrait bien candidat à la candidature. Et il se rend pour cela dans un club, comme il en fleurissait à l'époque des quantités, comme en mai 68. Et ce club, quelque part dans un quartier perdu de Paris, s'appelle le club de l'intelligence. Par antiphrase d'ailleurs, quand on lit l'ensemble du texte. Et Flaubert a bien repéré les constantes de ces systèmes qu'on a bien connus à l'époque des AG ou qu'on continue à connaître dans les conseils universitaires. C'est d'abord un régime de place, hein, le président, les assesseurs, le public, les premiers rangs, le fond, etc. Frédéric débarque dans cet univers dont il ne connaît pas exactement la logique ni les règles. Il n'a pas fréquenté, bien sûr, le milieu qui fermentait bien avant 48 et qui préparait la révolution. Et bon, il faut faire la part des sarcasmes flaubertiens. Les personnages qui dirigent ce club de l'intelligence se prennent évidemment pour Robespierre. Chacun son tour. Ils ont repris les costumes, les habitudes, le langage des grandes assemblées révolutionnaires de 93. Et ils font régner une espèce de terreur, mais des terreurs verbales. C'est-à-dire que c'est eux qui distribuent la parole. Etc. Et le pauvre Frédéric, qui à un moment donné essaie de prendre la parole, est tout simplement éjecté, comme le sera Florent à l'époque du ventre de Paris, mais dans d'autres circonstances. Il est éjecté parce que, d'abord parce qu'il a un passé pas clair, on lui reproche un certain nombre de compromissions, et surtout parce qu'il ne connaît pas, les techniques qui permettent de prendre la parole, de conquérir la parole et de la garder. C'est-à-dire qu'il est interrompu à tout moment et finalement sa candidature à la candidature est balayée par le club en question. Donc les rituels, ça c'est le rituel de l'Assemblée, finalement. Forme de rituel parlementaire tourné en dérision par Flaubert qui montre bien, encore une fois, la connexion entre l'organisation du lieu, sa fonction, et puis le régime de la parole. Alors, bon, pour conclure sur ce dernier point, constatons l'association entre ce qu'on pourrait appeler le lieu dédié à une fonction donnée et le programme cérémoniel. L'exemple du club d'intelligence est significatif, on pourrait en trouver beaucoup d'autres. Les exemples d'obsèques, les exemples de repas d'anniversaire, pensez au repas d'anniversaire de Gervaise dans l'Assommoir, pensez aux obsèques de D'Ambreuse dans l'éducation sentimentale, les réceptions académiques, les audiences, les processus judiciaires, etc. Il y a quantité d'exemples qui sont très présents dans la vie quotidienne et très présents dans le roman, qui attestent cette association étroite entre un lieu dédié et un programme cérémoniel ritualisé. Deuxième observation de clôture, il existe dans la vie et dans le roman donc une réserve locale, pourrait-on dire, une réserve locale pour la représentation des rites. Ce sont les salons, les places publiques, les églises, les arènes, les salles de spectacle, les tribunaux, les casernes, les universités, etc. Il y aurait des sujets de thèse intéressants, hein, consisterait justement à faire le repérage dans l'œuvre, une grande œuvre romanesque ou une série de grandes œuvres romanesques d'un même écrivain, un repérage de sa cartographie des réserves locales du rite, la manière dont elles sont mises en scène et réglées. Le rite impose le lieu et inversement, le lieu crée le rite. Dans Splendeur et misère des courtisanes de Balzac, il y a la grande scène de l'arrestation et de la mise en examen, on disait pas ça à l'époque, hein, on disait inculpation, je crois, de Vautrin. Alors, on est à la conciergerie, et qui est décrite de manière très précise par Balzac, les salles, les cabinets des juges, les couloirs, les cellules, tout ça, bon, et mise en place de manière rigoureuse du point de vue local et spatial, est connectée au rituel de l'arrestation, de l'interrogatoire, de l'inculpation, de l'emprisonnement. On a vu des exemples de Flaubert, on pourrait penser chez Proust aux dîners, hein, qui sont également très étroitement ritualisés. De sorte que il faut essayer de mettre en relation la cartographie typologique de l'œuvre, quelles sont les classes de lieux que l'œuvre a sélectionnées, a mis en évidence, et d'autre part, l'encyclopédie romanesque de ce que les anthropologues appellent les manières. Hein. L'encyclopédie romanesque des manières qui est connectée à une carte générale des lieux. Ajoutons que tout ce système des lieux cérémoniels et des cérémonies qui s'y déroulent, des rites d'interaction, constitue une matière fragile. C'est-à-dire que le lieu et le rite sont propices à la péripétie, hein, sont propices à la rupture de programme, je dirais. Il y a des détraquements, hein, il y a des troubles, la fête est troublée, il y a des coups de théâtre. Et c'est par là que la socialité rejoint la narrativité. Mais c'est par là aussi que surgissent les effets interprétatifs les plus divers. Bon, on évoquait à propos de Flaubert la satire, le carnavalesque, le burlesque. Dans d'autres cas, ce sera au contraire l'émotion, la gravité, le tragique, et ainsi de suite. Alors, j'ai envie de m'arrêter là pour qu'on puisse bavarder un peu, parce que si j'aborde le deuxième grand point, c'est-à-dire les aspects sociocritiques, on en aura jusqu'à la fin de la séance. Ce que je voudrais dire, ce que je voudrais suggérer, c'est que il existe évidemment un en-deçà des rites et des routines. Il existe des coulisses de la mise en scène de la vie quotidienne, des coulisses du théâtre social. Les routines et les rites sont le devant de la scène, ce sont les codes d'un cérémonial, ce sont les normes d'une rhétorique, d'un ordre des choses. Mais il ne faut pas, et c'est peut-être un petit peu le risque de ces travaux de microsociologie fermés sur eux-mêmes, il ne faut pas donner l'impression que le système est clos sur lui-même. Et si on reprend l'exemple des scènes qui se passent à la conciergerie dans Splendeur et misère des courtisanes, on s'aperçoit bien que par-delà la gravité des juges, par-delà la solennité des séances d'arrestation, d'interrogatoire, d'inculpation, etc., par-delà le caractère rigoureusement fonctionnel de la justice, Balzac dévoile tout un jeu de connivence, toute une mécanique d'intervention extérieure. Déjà, le cadre et le déroulement du rituel induisent la crainte, induisent le respect, induisent l'acceptation. C'est comme ça que fonctionnent les tribunaux. Il faut évidemment respecter la fonction judiciaire, etc. Mais du cabinet du juge et du procureur, ce qui émane, ce sont des interventions et des combinaisons qui ouvrent le rideau sur un autre monde. Hein. C'est magnifique, tout ce passage de Splendeur et misère des courtisanes. On passe du cabinet du juge d'instruction au salon de deux ou trois aristocrates, dames aristocrates de l'époque, Madame de Sérigny, Madame de Maufrigneuse, et par l'intermédiaire de ces femmes, on remonte jusqu'à l'entourage du roi. Et alors, ce qui se greffe sur le spectacle des rituels judiciaires, c'est bien entendu un réseau de démarches, d'influence, de corruption, de décisions qui dénient l'indépendance des magistrats et l'autonomie de la mise en scène. Donc, au-delà de la comédie des rituels et des routines, se joue une plus vaste comédie qui est celle des concurrences et des ambitions pour le pouvoir, pour le profit, etc. Balzac met ça à nu de manière explicite. Il y a probablement des romans qui choisissent plutôt l'implicitation. Donc, l'espace institutionnel est un espace poreux qui est ouvert à des intrusions et à des volontés étrangères. Alors ça nous oriente évidemment vers un autre type de réflexion plus proprement sociocritique qu'ethnocritique. Il s'agirait de creuser l'étude de la sémiologie profonde, finalement, des phénomènes de surface. La routine et les rites sont plutôt de l'ordre des structures superficielles. Les substructures, les infrastructures sociales sont de caractère justement infrastructurel. Alors là, évidemment, on est tout de même obligé, malgré le discrédit d'un certain marxisme, on est quand même obligé de se tourner vers des ouvrages qui se sont livrés à une critique très, très serrée du fonctionnement de la société de type capitaliste, bien entendu, comme on le disait à l'époque. Il est évident que des observations semblables pourraient être faites sur les sociétés du socialisme dit réel. Je pense essentiellement aux travaux d'Henri Lefebvre. J'ai cité la référence. Le livre d'Henri Lefebvre sur la production de l'espace me paraît être une bonne source pour réfléchir justement sur les fonctions sociales profondes de l'espace et dans la vie réelle et dans les représentations romanesques. Alors, je ne développe pas, vous lirez ça, la production de l'espace, et vous verrez l'analyse, le démontage qu'il fait justement de l'espace social, où il montre que l'espace social ne peut se comprendre sans, ne peut se décrire sans une réflexion sur le régime de la propriété. Il montre que l'espace social, en tout cas que les constructions, les dispositifs de l'espace social sont une marchandise, effectivement. On acquiert, on vend, on transmet des immeubles, des usines, etc. Que l'espace social est un espace de la production, toujours destiné à la production des marchandises et à leur, bien entendu, à leur échange. Il accorde beaucoup d'importance à la fonction défensive aussi de l'espace social, les fonctions de maintenance et de défense d'un certain régime de l'espace, le rôle de la police, de la justice, de l'armée. Voilà, toutes ces institutions qui visent à préserver la distribution existante des biens, spatiaux. Alors, inutile de dire qu'on a là aussi une réserve très riche de canevas pour la fiction romanesque. Des personnages de policiers, de gouvernants, de juges, j'évoquais Balzac à l'instant, de parlementaires, d'agents du maintien de l'ordre. Pensez au Chouan, pensez à 93, pensez à la Semaine Sainte d'Aragon. Enfin, il y a quantité de livres, de romans qui mettent en scène ces fonctions de maintenance et de défense de l'espace social existant. Et puis, Lefebvre termine, et moi je vais terminer là aussi, par deux autres séries de réflexions. La première sur l'espace social comme espace de production des idéologies, ou en tout cas la présence au sein de l'espace social d'espaces particuliers qui servent à la production des idéologies. Et là, la source, c'est, ou sinon la source de Lefebvre, en tout cas un correspondant immédiat, c'est Althusser, hein, avec ses ces articles sur les appareils idéologiques d'État. Autrement dit, il y a des agencements de l'espace dans cette perspective qui se spécifient dans la diffusion du savoir, mais aussi des croyances, des rêves, des divertissements, des mystiques, des mythologies, etc. Espace de l'école, espace de l'édition, espace des cinémas, espace des salons, des stades, de la télévision, tous espaces qui sont ambigus, hein, sont ambigus parce qu'ils produisent de l'activité, ils produisent souvent du savoir, en même temps, ils produisent peut-être des représentations illusoires. Ce que Althusser appelle l'idéologie, un mot qui ne prend pas au sens de méthode ou de théorie constituée, mais au sens plutôt de concrétion représentationnelle. Pensez chez Proust, par exemple, à ces dîners, à ces réunions au cours desquelles on discute de l'affaire Dreyfus, appelé le dialogue entre Norpois et Bloch. Norpois qui arrive avec tout le poids, justement, de la formation à la fois idéologique et rhétorique qu'il a reçue de son passage dans les ambassades. Alors, on discute de l'affaire, et le malheureux Bloch est incapable, à la fin de la conversation, de savoir si M. de Norpois est Dreyfusard ou anti-Dreyfusard. La rhétorique diplomatique a fonctionné à plein pour créer cet effet de brouillard. Et puis la dernière piste suivie par Lefebvre, ben, c'est justement la piste que j'évoquais tout à l'heure, avec la rupture des programmes ritualisés, c'est-à-dire que l'espace n'est jamais un espace éternellement, enfin, ou constitué pour l'éternité. Autrement dit, il est lui-même en permanence, l'espace social en tout cas, soumis à la contestation, à la contradiction. Ça s'infiltre partout, et avec la contradiction et la contestation, parfois surgit l'émeute, la révolution, la mise en question de l'espace institué et son remplacement éventuellement par un autre type d'espace social. Pensons par exemple alors au symbole et au mythe de la barricade dans Les Misérables. Rappelez ces pages fantastiques où les deux barricades, la rue du Faubourg du Temple, je crois, la rue du Faubourg Saint-Antoine, paraissent comme des monstres énormes, comme des cathédrales de l'émeute, et en même temps des cathédrales sans forme, hein, des entassements qui sont là, ne répondant à aucune règle, mais qui affirment l'espèce de volonté instinctive du peuple de casser justement les organismes et les espaces de maintenance et de défense. On peut penser parfois aussi à l'insurgé de Vallès, à la condition humaine de Malraux, etc., à tous ces romans qui ont mis en scène donc la guerre civile avec ses contre-espaces. Pensez à la Semaine Sainte aussi, hein, où on assiste à la débâcle de la monarchie réinstitué en 1814 autour de Louis-Philippe, de Louis XVIII. Louis XVIII qui s'embarque avec toute sa suite sur les routes de Picardie, dans la boue, sous la pluie, etc. Il reviendra, mais momentanément, ce qui est dépeint là, c'est cet exode, hein, de l'espace monarchique qui a pris la place de l'espace impérial, mais qui visiblement est rejeté par une grande partie du peuple avant de s'imposer de nouveau après Waterloo. Donc là, ce qu'on peut regarder de près dans les romans, puisque c'est ce qui nous intéresse, ce sont tous ces lieux où surgit un bouleversement de l'espace antérieurement institué. Voilà, bon, je m'arrête là, et je vous prie d'excuser le caractère un peu zigzagant de l'exposé, mais ce sont des questions qui personnellement m'intéressent beaucoup. considère que la narratologie a beaucoup travaillé la question du personnage, beaucoup travaillé la question du temps, il y a de grands ouvrages classiques là-dessus, a beaucoup travaillé la logique des actions, a beaucoup travaillé les programmes syntagmatiques de phases romanesques. Bon, mais la question de l'espace est toujours restée un petit peu en dehors. Il y a beaucoup de livres sur l'espace de la vie quotidienne, beaucoup de livres aussi ou d'articles sur l'espace romanesque, mais on a quand même l'impression qu'il y a encore du chemin à faire justement sur cette question-là.